Voltaire, Catéchisme de l'honnête homme, ou dialogue entre un caloyer et un homme de bien. Traduit du grec vulgaire par DJJRCDCDG. Le caloyer. Puis-je vous demander, monsieur, de quelle religion vous êtes dans Alep, au milieu de cette foule de sectes qui sont ici reçues et qui servent toutes à faire fleurir cette grande ville? Êtes-vous mahométan du site d'Omar ou de celui d'Ali? Suivez-vous les dogmes des anciens Parsis ou de ces Sabéens si antérieurs aux Parsis ou des Brahmes qui se vendent d'une antiquité encore plus reculée? Seriez-vous juif? Êtes-vous chrétien du rite grec ou de celui des Arméniens ou des Coptes ou des Latins? L'honnête homme. J'adore Dieu, je tâche d'être juste et je cherche à m'instruire. Mais ne donnez-vous pas la préférence aux livres juifs sur le Zendavesta, sur le Veidam, sur l'Alcoran? Je crains de n'avoir pas assez de lumière pour bien juger des livres, et je sens que j'en ai assez pour voir dans le grand livre de la nature qu'il faut adorer et aimer son maître. Y a-t-il quelque chose qui vous embarrasse dans les livres juifs? Oui, j'avoue que j'ai de la peine à concevoir ce qu'ils rapportent. J'y vois quelques incompatibilités dont ma faible raison s'étonne. Premièrement, il me semble difficile que Moïse ait écrit dans un désert le Pentateuque qu'on lui attribue. Si son peuple venait d'Égypte où il avait demeuré, dit l'auteur, 400 ans, oh, quoi qu'il se trompe de 200, ce livre était probablement écrit en égyptien, et on nous dit qu'il était en hébreu. Il devrait être gravé sur la pierre ou sur le bois. On avait du temps de Moïse d'autres manières d'écrire. C'était un art fort difficile, qui demandait de longs préparatifs. Il fallait polir le bois ou la pierre. Il n'y a pas d'apparence que cet art pût être exercé dans un désert où, selon ce livre même, la horde juive n'avait pas de quoi se faire des habits et des souliers, et où Dieu fut obligé de faire un miracle continuel pendant 40 années pour leur conserver leurs vêtements et leurs chaussures sans dépérissement. Il est si vrai qu'on n'écrivait que sur la pierre, que l'auteur du livre de Josué dit que le Deutéronome fut écrit sur un autel de pierre brute enduite de mortier. Apparemment que Josué n'avait pas l'intention que ce livre fût durable. Deuxièmement, les hommes les plus versés dans l'Antiquité pensent que ces livres ont été écrits plus de 700 ans après Moïse. Ils se fondent sur ce qu'il y est parlé des rois et qu'il n'y eut de roi que longtemps après Moïse. Sur la position des villes, qui est fausse si le livre fut écrit dans le désert, et vrai s'il fut écrit à Jérusalem, sur les noms de villes ou de bourgades dont il est parlé et qui ne furent fondées ou appelées du nom qu'on leur donne qu'après plusieurs siècles, etc. Troisièmement, ce qui peut un peu effarouché dans les écrits attribués à Moïse, c'est que l'immortalité de l'âme, les récompenses et les peines après la mort sont entièrement inconnues dans l'énoncé de ces lois. Il est étrange qu'il ordonne la manière dont on doit faire ses déjections et ne parle en nul endroit de l'immortalité de l'âme. Serait-il possible que Moïse, inspiré de Dieu, eût préféré nos dernières à nos esprits, qui lui prescrit la façon d'aller à la garde-robe dans le camp israélite et qui n'eût pas dit un seul mot de la vie éternelle. Zoroastre, antérieur au législateur juif, dit « Honorez, aimez vos parents, si vous voulez avoir la vie éternelle. » Et le décalogue dit « Honore père et mère, si tu veux vivre longtemps sur la terre. » Il me semble que Zoroastre parle en homme divin et Moïse en homme terrestre. Quatrièmement, les événements racontés dans le Pentateuque étonnent ceux qui ont le malheur de le juger que par leur raison, et dans qui cette raison aveugle n'est pas éclairée par une grâce particulière. Le premier chapitre de la Genèse est si au-dessus de nos conceptions qu'il fut défendu chez les Juifs de le lire avant 25 ans. On voit avec un peu de surprise que Dieu vienne se promener tous les jours à midi dans le jardin d'Éden, que les sources de 4 fleuves, éloignées prodigieusement les unes des autres, forment une fontaine dans ce même jardin, que le serpent parle à Ève, attendu qu'il est le plus subtil des animaux, et qu'une ânesse, qui ne passe pas pour si subtile, parle aussi plusieurs siècles après. Que Dieu ait séparé la lumière des ténèbres, comme si les ténèbres étaient quelque chose de réel. Qu'il ait fait la lumière qui émane du soleil avant le soleil lui-même. Et qu'après avoir fait l'homme et la femme, il ait ensuite tiré la femme d'une côte de l'homme, qu'il ait mis de la chair à la place de cette côte. Qu'il ait condamné Adam à la mort et toute sa postérité à l'enfer pour une pomme. Qu'il ait mis un signe de sauvegarde à Caïn qui avait assassiné son frère, et que ce Caïn ait craint d'être tué par les hommes qui peuplaient alors la terre, tandis que, selon le texte, le genre humain était borné à la famille d'Adam. Que le prétendu caractère dans le ciel ait inondé la terre, que tous les animaux soient venus s'enfermer un an dans un coffre. Après ce nombre prodigieux de fables qui semblent toutes plus absurdes que les métamorphoses d'Ovide, on n'est pas moins surpris que Dieu délivre de la servitude en Égypte 600 000 combattants de son peuple, sans compter les vieillards, les enfants et les femmes. Et que ces 600 000 combattants, après les plus éclatants miracles, égalés pourtant par les magiciens d'Égypte, s'enfuient au lieu de combattre leurs ennemis. Qu'en fuyant, ils ne prennent pas le chemin du pays où Dieu les conduit. Qu'ils se trouvent entre Memphis et la mer Rouge. Que Dieu leur ouvre cette mer et la leur fasse passer à pied sec pour les faire périr dans des déserts affreux au lieu de les mener dans la terre qu'il leur a promise. Et que ce peuple, sous la main et sous les yeux de Dieu même, demande aux frères de Moïse un veau d'or pour l'adorer. Et que ce veau d'or soit jeté en fonte en un seul jour. Que Moïse réduise cet or en poudre impalpable et la fasse avaler au peuple. Que 23 000 hommes de ce peuple se laissent égorger par des Lévites en punition d'avoir érigé ce veau d'or. Et qu'Aaron, qui l'a jeté en fonte, soit déclaré grand prêtre pour récompense. Qu'on ait brûlé 250 hommes d'une part, et 14 700 hommes de l'autre, qui avaient disputé l'encensoir à Aaron, et que dans une autre occasion, Moïse ait encore fait tuer 24 000 hommes de son peuple. Cinquièmement, si l'on s'en tient aux plus simples connaissances de la physique, et qu'on ne s'élève pas jusqu'au pouvoir divin, il sera difficile de penser qu'il y ait eu une eau qui ait fait crever les femmes adultères, et qui respectait les femmes fidèles. On voit encore avec plus d'étonnement un vrai prophète parmi les idolâtres dans la personne de Balaam. Sixièmement, on est encore plus surpris que dans un village du petit pays de Madian, le peuple juif trouve 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes, 32 000 pucelles. Et on frissonne d'horreur quand on lit que les Juifs, par ordre du Seigneur, massacrèrent tous les mâles et toutes les veuves, les épouses et les mères, et ne gardèrent que les petites filles. Septièmement, le soleil qui s'arrête en plein midi pour donner plus de temps aux Juifs de tuer les Amoréens, déjà écrasés par une pluie de pierres tombée du ciel. Le Jourdain qui ouvre son lit comme la mer Rouge pour laisser passer ces Juifs qui pouvaient passer si aisément à gué. les murailles de Jéricho qui tombent au son des trompettes. Tant de prodiges de toute espèce exigent pour être crus le sacrifice de la raison et la foi la plus vive. Enfin, à quoi aboutissent tant de miracles opérés par Dieu même pendant des siècles en faveur de son peuple? À le rendre presque toujours l'esclave des autres nations? Huitièmement, toute l'histoire de Samson et de ses amours, et de ses cheveux, et de son lion, et de ses 300 renards, semble plus faite pour amuser l'imagination que pour édifier l'esprit. Celle de Josué et de Jephté semble barbare. Neuvièmement, l'histoire des rois est un tissu des cruautés et d'assassinats qui fait saigner le cœur. Presque tous les faits sont incroyables. Le premier roi juif, Saül, ne trouve chez son peuple que 2 épées, et son successeur David laisse plus de 20 milliards d'argent comptant. Vous dites que ces livres sont écrits par Dieu même? Vous savez que Dieu ne peut mentir, donc, si un seul fait est faux, tout le livre est une imposture. Dixièmement, les prophètes ne sont pas moins révoltants pour un homme qui n'a pas le don de pénétrer le sens caché et allégorique des prophéties. Il voit avec peine Jérémie se charger d'un bas et d'un collier et se faire lier avec des cordes. Osée, à qui Dieu commande, en termes formels, de faire des fils de putain à une putain publique, d'en faire ensuite à une femme adultère. Isaïe, qui marche tout nu dans la place publique. Ézéchiel, qui se couche 390 jours sur le côté gauche et 40 sur le côté droit, qui mange un livre de parchemin, qui couvre son pain d'excréments d'homme et ensuite de bouse de vache. Allah et Oliba, qui établissent un bordel et à qui Dieu dit qu'elle n'aime que les membres d'un âne et le sperme d'un cheval. Certainement, si le lecteur n'est pas instruit des usages du pays et de la manière de prophétiser, il peut craindre d'être scandalisé. Et quand il voit Élisée faire dévorer 40 enfants par des ours pour l'avoir appelé tel chauve, un châtiment si peu proportionné à l'offense peut lui inspirer plus d'horreur que de respect. Pardonnez-moi donc si les livres juifs m'ont causé quelque embarras. Je ne veux pas avilir l'objet de votre vénération. J'avoue même que je peux me tromper sur les choses de bienséance et de justice qui ne sont peut-être pas les mêmes dans tous les temps. Je me dis que nos mœurs sont différentes de celles de ces siècles reculés. Mais peut-être aussi la préférence que vous avez donnée au Nouveau Testament sur l'Ancien peut servir à justifier mes scrupules. Il faut bien que la loi des Juifs ne vous ait pas paru bonne puisque vous l'avez abandonnée. Car si elle était réellement bonne, pourquoi ne l'auriez-vous pas toujours suivie? Et si elle était mauvaise, comment était-elle divine? Le Caloyer. L'Ancien Testament a ses difficultés, mais vous m'avouez donc que le Nouveau Testament ne fait pas naître en vous les mêmes doutes et les mêmes scrupules que l'Ancien. Non, je les ai lus tous deux avec attention, mais souffrez que je vous expose les inquiétudes où me jette mon ignorance. Vous les plaindrez et vous les calmerez. Je me trouve ici avec des chrétiens arméniens qui disent qu'il n'est pas permis de manger du lièvre, avec des Grecs qui assurent que le Saint-Esprit ne procède point du Fils, avec des historiens qui nient que Marie soit mère de Dieu, avec quelques latins qui se vantent jusqu'au bout de l'Occident, les chrétiens d'Europe pensent tout autrement que ceux d'Asie et d'Afrique. Je sais que 10 ou 12 sectes en Europe s'anathématisent les unes les autres. Les musulmans qui m'entourent regardent d'un œil de mépris tous ces chrétiens que cependant ils tolèrent. Les juifs font également en exécration les chrétiens et les musulmans. Les guèbres les méprisent tous, et le peu qui reste de sabéens ne voudrait manger avec aucun de ceux que je vous ai nommés. Le brahme ne peut souffrir ni sabéen, ni guèbre, ni chrétien, ni mahométan, ni juif. J'ai 100 fois souhaité que Jésus-Christ, en venant s'incarner en Judée, eût réuni toutes ses sectes sous ses lois. Je me suis demandé pourquoi, étant Dieu, il n'a pas usé des droits de la divinité. Pourquoi, en venant nous délivrer du péché, il nous a laissés dans le péché. Pourquoi, en venant éclairer tous les hommes, il a laissé presque tous les hommes dans l'erreur. Je sais que je ne suis rien. Je sais que du fond de mon néant, je ne dois pas interroger l'être des êtres. Mais il m'est permis, comme à Job, d'élever mes respectueuses plaintes du sein de ma misère. Mais que voulez-vous que je pense quand je vois deux généalogies de Jésus directement contraires l'une à l'autre? Et que ces généalogies, qui sont si différentes dans les noms et dans le nombre de ses ancêtres, ne sont pourtant pas la sienne, mais celle de son père Joseph, qui n'est pas son père. Je donne la torture à mon esprit pour comprendre comment un Dieu est mort. Je lis les livres sacrés et les profanes de ces temps-là. Un seul de ces livres sacrés me dit qu'une étoile nouvelle parut en Orient et conduisit des mages aux pieds de Dieu qui venait de naître. Aucun profane ne parle de cet événement à jamais mémorable qui semble devoir avoir été aperçu par la terre entière et marqué dans les fastes de tous les états. Un évangéliste me dit qu'un roi nommé Hérode, à qui les Romains, un maître du monde connu, avaient donné la Judée, entendu dire que l'enfant qui venait de naître dans une étable devait être roi des Juifs. Mais comment et à qui et sur quel fondement entendit-il dire cette étrange nouvelle? Est-il possible que ce roi, qui n'avait pas perdu le sens, ait imaginé de faire égorger tous les petits-enfants du pays pour envelopper dans le massacre un enfant obscur? Y a-t-il un exemple sur la terre d'une fureur si abominable et si insensée? Je vois que les évangiles qui nous restent se contredisent presque à chaque page. J'ouvre l'histoire de Joseph, auteur presque contemporain. Joseph, parent de Mariam, sacrifié par Hérode. Joseph, ennemi naturel de ce prince. Il ne dit pas un mot de cette aventure. Il est juif et il ne parle pas même de ce Jésus né chez les Juifs. Que d'incertitude macabre dans la recherche importante de ce que je dois adorer et de ce que je dois croire. Je lis les Écritures et je n'y vois nulle part que Jésus, reconnu depuis pour Dieu, se soit jamais appelé Dieu. Je vois même tout le contraire. Il dit que son Père est plus grand que lui et que le Père seul sait ce que le Fils ignore. Et comment encore ces mots de père et de fils se doivent-ils entendre chez un peuple où, par les fils de Bélial, on voulait dire les méchants et par les fils de Dieu, on désignait les hommes justes? J'adopte quelques maximes de la morale de Jésus. Mais quel législateur enseigna jamais une mauvaise morale? Dans quelle religion l'adultère, le larcin, le meurtre, l'imposture ne sont-ils pas défendus? Le respect pour les parents, l'obéissance aux lois, la pratique de toutes les vertus, expressément ordonnées. Plus je lis, plus mes peines redoublent. Je cherche des prodiges dignes d'un Dieu, attestés par l'univers. J'ose dire, avec cette naïveté douloureuse qui craint de blasphémer, que les diables envoyés dans le corps d'un troupeau de cochons, de l'eau changée en vin en faveur de gens qui étaient ivres, un figuier séché pour n'avoir pas porté les figues avant le temps, etc., ne remplissent pas l'idée que je m'étais faite du maître de la nature, annonçant et prouvant la vérité par des miracles éclatants et utiles. Puis j'adorais ce maître de la nature dans un juif qu'on dit transporté par le diable sur le haut d'une montagne dont on découvre tous les royaumes de la terre. Je lis les paroles qu'on rapporte de lui. J'y vois une prochaine arrivée du royaume des cieux, figurée par un grain de moutarde, par un filet à prendre des poissons, par de l'argent mis à usure, par un souper auquel on fait entrer par force des borgnes et des boiteux. Jésus dit qu'on ne met point de vin nouveau dans de vieux tonneaux, que l'on aime mieux le vin nouveau que le vieux. Mais est-ce ainsi que Dieu parle? Enfin, comment puis-je reconnaître Dieu dans un juif de la populace, condamné au dernier supplice pour avoir mal parlé les magistrats à cette populace, et suant d'une sueur de sang dans l'angoisse et dans la frayeur que lui inspirait la mort? Est-ce là Platon? Est-ce là Socrate, ou Antonin, ou Épictète, ou Zaleucus, ou Solon, ou Confucius? Qui de tous ces sages gens n'a écrit, n'a parlé d'une manière plus conforme aux idées que nous avons de la sagesse? Et comment pouvons-nous juger autrement que par nos idées? Quand je vous ai dit que j'adoptais quelques maximes de Jésus, vous avez dû sentir que je ne puis les adopter toutes. J'ai été affligé en lisant. Je suis venu apporter le glaive et non la paix. Je suis venu diviser le fils et le père, la fille, la mère et les parents. Je vous avoue que ces paroles m'ont saisi de douleur et d'effroi. Et si je regardais ces paroles comme une prophétie, je croirais en voir l'accomplissement dans les querelles qui ont divisé les chrétiens dès les premiers temps, dans les guerres civiles qui leur ont mis les armes à la main pendant tant de siècles, dans les assassinats de tant de princes, dans les horribles malheurs de tant de familles. J'avoue encore que des mouvements d'indignation et de pitié se sont élevés dans mon cœur quand j'ai vu Pierre faire apporter à ses pieds l'argent de ses sectateurs. Ananie et Saphire ont gardé quelque chose pour eux du prix de leur champ. Ils ne l'ont pas dit. Et Pierre les punit en faisant mourir subitement le mari et la femme. Hélas, ce n'était pas là le miracle que j'attendais de ceux qui disent qu'ils ne veulent pas la mort du pécheur, mais sa conversion. J'ai osé penser que si Dieu faisait des miracles, ce serait pour guérir les hommes et non pour les tuer. Ce serait pour les corriger et non pour les perdre. Qu'il est un Dieu de miséricorde et non un tyran homicide. Ce qui m'a le plus révolté dans cette histoire, c'est que Pierre, ayant fait mourir Ananie et voyant venir Saphire, sa femme, ne l'avertit pas, ne lui dit pas « Gardez-vous le réservé pour vous quelques oboles. Si vous en avez, avouez tout, donnez tout, craignez le sort de votre mari. » Au contraire, il l'a fait tomber dans le piège. Il semble qu'il se réjouisse de frapper une seconde victime. Oh, je vous avoue que cette aventure m'a toujours fait dresser les cheveux et que je me suis consolé que quand j'ai vu l'impossibilité et le ridicule. Puisque vous me permettez de vous expliquer mes pensées, je continue. Et je dis que je n'ai trouvé aucune trace du christianisme dans l'histoire de Jésus. Les quatre évangiles qui nous restent sont en opposition sur plusieurs faits, mais ils attestent uniformément que Jésus fut soumis à la loi de Moïse depuis le moment de sa naissance jusqu'à celui de sa mort. Tous ses disciples fréquentèrent la synagogue. Ils prêchaient une réforme, mais ils n'annonçaient pas une religion différente. Les chrétiens ne furent absolument séparés des juifs que longtemps après. Dans quel temps précis Dieu voulut-il donc qu'on cessât d'être juif et qu'on fût chrétien? Qui ne voit que le temps a tout fait, que tous les dogmes sont venus les uns après les autres? Si Jésus avait voulu établir une église chrétienne, n'en eût-il pas enseigné les lois? N'aurait-il pas lui-même établi tous les rites? N'aurait-il pas annoncé les sept sacrements dont il ne parle pas? N'aurait-il pas dit « Je suis Dieu engendré et non fait. Le Saint-Esprit procède de mon Père sans être engendré. J'ai deux volontés et une personne. Ma mère est mère de Dieu. Au contraire, il dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? » Il n'établit ni dogme, ni rythme, ni hiérarchie. Ce n'est donc pas lui qui a fait sa religion. Quand les premiers dogmes commencent à s'établir, je vois les chrétiens soutenir ces dogmes par des livres supposés. Ils imputent aux sibylles des vers acrostiches sur le christianisme. Ils forgent des histoires, des prodiges dont l'absurdité est palpable. Telle est par exemple l'histoire de la nouvelle ville de Jérusalem, bâtie dans l'air, dont les murailles avaient 500 lieues de tour et de hauteur, qui se promenaient sur l'horizon pendant toute la nuit et qui disparaissaient au point du jour. Telle est la querelle de Pierre et de Simon, le magicien, devant Néron. Telles sont 100 côtes, non moins absurdes. Que de péracles périls on a forgés, que de faux martyrs, que de légendes ridicules. Portenta iudaica oides. Comment celui qui a écrit la légende de Luc sous le nom de Bonne Nouvelle Évangile a-t-il eu le front de dire au chapitre 21 que la génération dans laquelle il vivait ne passerait pas sans que les vertus des cieux fussent ébranlées, sans qu'il y eût des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, sans qu'enfin Jésus vînt dans les nuées avec une grande puissance et une grande majesté? Certainement, il n'y eut ni signe dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, ni de vertus des cieux ébranlés, ni de Jésus venant majestueusement dans les nuées. Comment le fanatique qui rédigea les épîtres de Paul est-il assez téméraire pour lui faire dire « J'ai appris de Jésus que nous qui vivons, nous sommes réservés pour son avènement. Sitôt que le signal aurait été donné par la trompette, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront les premiers. Puis nous autres qui sommes vivants, nous serons emportés avec eux dans l'air pur, aller au-delà de Jésus. » Cette belle prédiction s'est-elle accomplie? Paul et les Juifs chrétiens allèrent-ils dans l'air au-devant de Jésus, au son de la trompette? Et où, s'il vous plaît? Paul avait-il appris de Jésus ces merveilleuses choses, lui qui ne l'avait jamais vu, lui qui avait servi de satellite et de bourreau contre ses disciples, lui qui avait aidé à lapider Étienne? Avait-il parlé à Jésus quand il fut ravi au troisième ciel? Et qu'est-ce que ce troisième ciel? Est-ce Mercure ou Mars? En vérité, si on lisait avec attention, on serait saisi d'horreur et de pitié à chaque page.
Le Caloyer. Mais si ce récit fait un tel effet sur les lecteurs, comment a-t-on pu croire à ce livre? Comment a-t-il converti tant de milliers d'hommes?
L'honnête homme.
Mais c'est qu'on ne lisait pas. Est-ce par la lecture qu'on persuade à 10 millions de paysans que 3 font 1, que Dieu est dans un morceau de pâte, que cette pâte disparaît et que c'est Dieu lui-même qui est fait sur le champ par un homme? C'est par la conversation, par la prédication, par les cabales. C'est en séduisant des femmes et des enfants. C'est par des impostures, par des récits miraculeux qu'on vient aisément à bout d'établir un petit troupeau. Les livres des premiers chrétiens étaient très rares. Il était défendu de les communiquer aux catéchumènes. On était initié secrètement au mystère des chrétiens, comme à ceux de Cérès. Le petit peuple courait avidement après des gens qui lui persuadaient que non seulement tous les hommes étaient égaux, mais qu'un chrétien était bien supérieur à un empereur romain. Toute la terre était alors divisée en petites associations égyptiennes, grecques, syriennes, romaines, juives, etc. La secte des chrétiens eut tous les avantages possibles dans la populace. Il suffisait de 3 ou 4 têtes échauffées, comme celle de Paul, pour attirer la canaille. Et bientôt après vinrent des hommes adroits qui se mirent à sa tête. Presque toutes les sectes se sont ainsi établies, excepté celle de Mahomet, la plus brillante de toutes, qui seule, entre tant d'établissements humains, sembla être en naissance sous la protection de Dieu, puisqu'elle ne dut son existence qu'à des victoires. Encore la religion musulmane est-elle, après 1200 ans, ce qu'elle fut sous son fondateur, on n'y a rien changé. Les lois écrites par Mahomet lui-même subsistent dans toute leur intégrité. Son Alcoran est autant respecté en Perse qu'en Turquie, autant dans l'Afrique que dans les Indes. On l'observe partout à la lettre. On n'est divisé que sur le droit de succession entre Ali et Omar. Le christianisme, au contraire, est différent en tout de la religion de Jésus. Ce Jésus, fils d'un charpentier de village, n'écrivit jamais rien. Et probablement il ne savait ni lire ni écrire. Il naquit, vécut, mourut juif dans l'observance de tous les rites juifs, circoncis, sacrifiant, suivant la loi mosaïque, mangeant l'agneau pascal avec des laitues, s'abstenant de manger du porc, de l'ixion et du griffon, comme aussi du lièvre, parce qu'il rumine et qu'il n'a pas le pied fendu, selon la loi mosaïque. Vous autres, au contraire, vous osez croire que le lièvre a le pied fendu et qu'il ne rumine pas. Vous en mangez hardiment. Vous faites rôtir un ixion et un griffon quand vous en trouvez. Vous n'êtes point circoncis, vous ne sacrifiez point. Aucune de vos fêtes ne fut instituée par votre Jésus. Que pouvez-vous avoir de commun avec lui ? J'avoue que je serais un imposteur bien effronté si j'osais vous soutenir que le christianisme d'aujourd'hui ressemble à celui des premiers siècles et celui de ces premiers siècles à la religion de Jésus, mais vous m'avouerez aussi que Dieu a pu ordonner toutes ces variations. Dieu varié, Dieu changé, cette idée me paraît un blasphème. Quoi, le soleil de Dieu est toujours le même ? Et sa religion serait une suite de vicissitudes ? Quoi, vous le feriez ressembler à ces gouvernements misérables qui donnent tous les jours des édits nouveaux et contradictoires ? Il aurait donné un édit à Adam, un autre à Seth, un troisième à Noé, un quatrième à Abraham, un cinquième à Moïse, un sixième à Jésus et de nouveaux édits encore à chaque concile. Et tout aurait changé, depuis la défense de manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, jusqu'à l'abus l'unigénitus du jésuite Letellier. Croyez-moi, trembler d'outrager Dieu en l'accusant de tant d'inconstance, de faiblesse, de contradiction, de ridicule et même de méchanceté. Et si toutes ces variations sont l'ouvrage des hommes, convenez que la morale au moins est de Dieu, puisqu'elle est toujours la même. Tenons-en donc à cette morale, mais que les chrétiens l'ont corrompue, qu'ils ont cruellement violé la loi naturelle enseignée par tous les législateurs et gravée au cœur de tous les hommes. Si Jésus a parlé de cette loi aussi ancienne que le monde, de cette loi établie chez le Huron comme chez le Chinois, « Aime ton prochain comme toi-même. » La loi des chrétiens a été « Déteste ton prochain comme toi-même. » Athanasiens, persécutez-les, je sais bien, et soyez persécutés. Syriens, écrasez les enfants des Nestoriens contre les murs. Guelfes et Gibelins, faites une guerre civile de 500 années pour savoir si Jésus a ordonné aux prétendus successeurs de Simon Barjone de détrôner les empereurs et les rois, et si Constantin a cédé l'Empire au pape Sylvestre. Papistes, mais suspendez à des potences hautes de 30 pieds, déchirez, brûlez les malheureux qui ne croient pas qu'un morceau de pâte soit changé en Dieu à la voix d'un capucin ou d'un récollet, pour être mangé sur l'autel par des souris si on laisse le ciboire ouvert. Poltrou, Balthazar, Gérard, Jacques, Clément, Châtel, Guignard, Ravaillac, aiguisez vos sacrés poignards, chargez vos saints pistolets. Europe nage dans le sang, tandis que le vicaire de Dieu, Alexandre VI, souillé de meurtre et d'empoisonnement, dort dans les bras de sa fille Lucrèce, que Léon X nage dans les plaisirs, que Paul III enrichit son bâtard des dépouilles des nations, que Jules III fait son porte-singe cardinal, dignité plus convenable encore au singe qu'au porteur, tandis que Pie IV fait étrangler le cardinal Carafe, que Pie V fait gémir les Romains sous les rapines de son bâtard Buon Compagno, que Clément VIII ordonne le fouet au grand Henri IV sur les fesses des cardinaux d'Ossa et de Duperron. Mêlez partout le ridicule de vos farces italiennes à l'horreur de vos brigandages, et puis envoyez frère Trigault et frère Bouvet prêcher la bonne nouvelle à la Chine. Je ne puis condamner votre zèle. La vérité contre laquelle on se débat en vain me force de convenir d'une partie de ce que vous dites. Mais enfin, convenez aussi que parmi tant de crimes, il y a eu de grandes vertus. Faut-il que les abus vous aigrissent et que les bonnes lois ne vous touchent pas? Ajoutez à ces bonnes lois des miracles qui sont la preuve de la divinité de Jésus-Christ. Des miracles! Juste ciel, et quelle religion n'a pas ces miracles? Tout est prodige dans l'Antiquité. Quoi, vous ne croyez pas aux miracles rapportés par les Hérodotes et les Tite-Live, par cent autres auteurs respectés des nations? Et vous croyez à des aventures de la Palestine, racontées, dit-on, par Jean et par Marc, dans des livres ignorés pendant 300 ans chez les Grecs et chez les Romains, dans des livres faits sans doute longtemps après la destruction de Jérusalem, comme il est prouvé par ces livres mêmes, qui fourmillent de contradictions à chaque page. Par exemple, il est dit dans l'évangile de saint Matthieu que le sang de Zacharie, fils de Barak, massacré entre le temple et l'autel, retombera sur les Juifs. Or, on voit dans l'histoire de Flavius Joseph que ce Zacharie fut tué en effet entre le temple et l'autel pendant le siège de Jérusalem par Titus. Donc, cet évangile ne fut écrit qu'après Titus. Et pourquoi Dieu aurait-il fait ces miracles? Pour être condamné à la potence chez les Juifs? Quoi? Il aurait ressuscité des morts et il n'en eût recueilli d'autre fruit que de mourir lui-même et de mourir du dernier supplice? S'il eût opéré ses prodiges, c'eût été pour faire connaître sa divinité. Songez-vous bien ce que c'est que d'accuser Dieu de s'être fait homme inutilement et d'avoir ressuscité des morts pour être pendu? Quoi, des milliers de miracles en faveur des Juifs pour les rendre esclaves et des miracles de Jésus pour faire mourir Jésus en croix? Il y a de l'imbécilité à le croire et une fureur bien criminelle à l'enseigner quand on ne le croit pas. Je ne nie pas que vos objections ne soient fondées, et je sens que vous raisonnez de bonne foi, mais enfin, convenez qu'il faut une religion aux hommes. Sans doute, oui, l'âme demande cette nourriture, mais pourquoi la changer en poison? Pourquoi étouffer la simple vérité dans un amas d'indignes mensonges? Pourquoi soutenir ces mensonges par le fer et par les flammes? Quelle horreur infernale! Ah, si votre religion était de Dieu, la soigneriez-vous par des bourreaux? Le géomètre a-t-il besoin de dire « Crois ou je te tue ?» La religion entre l'homme et Dieu est l'adoration et la vertu. C'est entre le prince et ses sujets une affaire de police. Ce n'est que trop souvent, d'homme à homme, qu'un commerce de fourberie. Adorons Dieu sincèrement, simplement, et ne trompons personne. Oui, il faut une religion, mais il la faut pure, raisonnable, universelle. Elle doit être comme le soleil qui est pour tous les hommes, et non pas pour quelques petites provinces privilégiées. Il est absurde, odieux, abominable d'imaginer que Dieu éclaire tous les yeux et qu'il plonge presque toutes les âmes dans les ténèbres. Il n'y a qu'une seule probité commune à tout l'univers. Il n'y a donc qu'une religion. Et quelle est-elle ? Vous le savez, c'est d'adorer Dieu et d'être juste. Mais comment croyez-vous donc que ma religion s'est établie? Comme toutes les autres. Un homme d'une imagination forte se fait suivre par quelques personnes d'une imagination faible. Le troubeau s'augmente, le fanatisme commence, la fourberie achève. Un homme puissant vient, il voit une foule qui s'est mise une selle sur le dos et un mort à la bouche, il monte sur elle et la conduit. Et quand une fois la religion nouvelle est reçue dans l'État, le gouvernement n'est plus occupé qu'à proscrire tous les moyens par lesquels c'est établi. Elle a commencé par des assemblées secrètes, on les défend. Les premiers apôtres ont été expressément envoyés pour chasser les diables, on défend les diables. Les apôtres se faisaient apporter de l'argent des prosélytes. Celui qui est convaincu de prendre de l'argent ainsi est puni. Il disait qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et sur ce prétexte, il bravait les lois. Le gouvernement maintient que suivre les lois, c'est obéir à Dieu. Enfin, la politique tâche sans cesse de concilier l'erreur reçue et le bien public. Mais vous allez en Europe, vous serez obligé de vous conformer à quelqu'un des cultes reçus. Quoi donc ? Ne pourrais-je faire en Europe comme ici, adorer paisiblement le Créateur de tous les mondes, le Dieu de tous les hommes, celui qui a mis dans mon cœur l'amour de la vérité et de la justice ? Non, vous vous risqueriez trop. L'Europe est divisée en factions. Il faudra en choisir une. Des factions, quand il s'agit de la vérité universelle, quand il s'agit de Dieu. Tel est le malheur des hommes. On est obligé de faire comme eux ou de les fuir. Je vous demande la préférence pour l'Église grecque. Elle est esclave. Et voulez-vous vous soumettre à l'Église romaine ? Elle est tyrannique. Je ne veux ni d'un patriarche simoniaque qui achète sa honteuse dignité d'un grand vizir, ni d'un prêtre qui s'est cru pendant 700 ans le maître des rois. Il n'appartient pas à un religieux tel que je le suis de vous proposer la religion protestante. C'est peut-être celle de toutes que j'obtempérerais le plus volontiers si j'étais réduit au malheur d'entrer dans un parti. Pourquoi ne lui pas préférer une religion plus ancienne ? Elle me paraît bien plus ancienne que la romaine. Comment ? Mais pouvez-vous supposer que Saint-Pierre ne soit pas plus ancien que Luther, Zwingli, que Lampade, Calvin et les réformateurs d'Angleterre, du Danemark, de Suède, etc. ? Il me semble que la religion protestante n'est inventée ni par Luther ni par Zwingli. Il me semble qu'elle se rapproche plus de sa source que la religion romaine, qu'elle n'adopte que ce qui se trouve expressément dans l'évangile des chrétiens, tandis que les Romains ont changé le culte de cérémonies et de dogmes nouveaux. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir que le législateur des chrétiens n'institua point de fêtes, n'ordonna point qu'on adorât des images et des eaux de mort, ne vendit point d'indulgence, ne reçut point d'annate, ne conféra point de bénéfices, n'eut aucune dignité temporelle, n'établit point une inquisition pour soutenir ses lois, ne maintint point son autorité par le fer des bourreaux. Les protestants réprouvent toutes ces nouveautés scandaleuses et funestes. Ils sont parfois soumis aux magistrats, et l'Église romaine lutte depuis 800 ans contre les magistrats. Si les protestants se trompent comme les autres dans le principe, ils ont moins d'erreurs dans les conséquences. Et puisqu'il faut traiter avec les hommes, moi j'aime à traiter avec ceux qui trompent le moins. Il semble que vous choisissiez une religion comme on achète des étoffes chez les marchands. Vous allez chez celui qui vend le moins cher. Je vous ai dit ce que je préférerais s'il me fallait faire un choix selon les règles de la prudence humaine. Mais ce n'est point aux hommes que je dois m'adresser, c'est à Dieu seul. Il parle à tous les cœurs, nous avons tous un droit égal à l'entendre. La conscience qu'il a donnée à tous les hommes est leur loi universelle. Les hommes sentent d'un pôle à l'autre qu'on doit être juste, honorer son père et sa mère, aider ses semblables, tenir ses promesses. Ses lois sont de Dieu, les simagrées sont des mortels. Toutes les religions diffèrent comme les gouvernements. Dieu permet les uns et les autres. J'ai cru, moi, que la manière d'extérieur dont on l'adore ne peut le flatter ni l'offenser. pourvu que cette adoration ne soit ni superstitieuse envers lui, ni barbare envers les hommes. N'est-ce pas en effet offenser Dieu que de penser qu'il choisisse une petite nation chargée de crimes pour sa favorite afin de damner toutes les autres ? Que l'assassin d'Uri soit son bien-aimé et que le pieux Antonin lui soit en horreur ? N'est-ce pas la plus grande absurdité de penser que l'être suprême punira à jamais un caloyer pour avoir mangé du lièvre ou un turc pour avoir mangé du porc ? Il y a eu des peuples qui ont mis, dit-on, les oignons au rang des dieux. Il y en a d'autres qui ont prétendu qu'un morceau de pâte était changé en autant de dieux que de miettes. Ces deux extrêmes de la démence humaine font également pitié. Mais que ceux qui adoptent ces rêveries osent persécuter ceux qui ne les croient pas, c'est là ce qui est horrible. Les anciens Parsis, les Sabéens, les Égyptiens, les Grecs ont admis un enfer. Cet enfer est sur la terre et ce sont les persécuteurs qui en sont les démons. Je déteste la persécution, la contrainte autant que vous. Et grâce au ciel, je vous ai déjà dit que les Turcs, sous qui je vis en paix, ne persécutent personne. Ah, alors puissent tous les peuples d'Europe suivre l'exemple des Turcs. Mais j'ajoute qu'étant caloyer, je ne puis vous proposer d'autre religion que celle que je professe au mont Athos. Et moi, j'ajoute qu'étant homme, je vous propose la religion qui convient à tous les hommes, celle de tous les patriarches et de tous les sages de l'Antiquité, l'adoration d'un dieu, la justice, l'amour du prochain, l'indulgence pour toutes les erreurs et la bienveillance dans toutes les occasions de la vie. C'est cette religion digne de Dieu que Dieu a gravée dans tous les cœurs. Mais certes, il n'y a pas gravé que 3 fois 1, qu'un morceau de pain est l'éternel, et que l'ânesse de Balaam a parlé. Mais ne m'empêchez pas d'être caloyer. Mais ne m'empêchez pas d'être honnête homme. Je sers Dieu selon l'usage de mon couvent. Et moi, selon ma conscience. Elle me dit de le craindre d'aimer les caloyers, les derviches, les bons et les tablepoints, et de regarder tous les hommes comme mes frères. Allez, allez, tout caloyer que je suis, je pense comme vous. Mon Dieu, bénissez ce bon caloyer. Mon Dieu, bénissez cet honnête homme.